École normale supérieure, savoir en multimédia.
Merci bien, Francis. Donc, je vous remercie de me donner cette occasion de présenter quelques idées. Alors, je vais procéder, six étapes. Il y aura six points. Le premier point consistera à introduire un concept pratique de l'identité. Alors, je vais partir de considérations élémentaires, à savoir que si nous prenons le terme identité dans le sens le plus ordinaire et le plus banal, comme contrôle d'identité, papier d'identité, alors il pourrait sembler que l'identité, c'est justement ce qui est donné et qui donc échappe à toute décision de notre part. C'est cela même dont on ne peut pas décider. Cette identité, qui consiste à énumérer différents faits résultant de l'individuation de chacun de nous, cette identité, telle que la date de naissance, les parents, des éléments de ce genre, eh bien, il n'est pas question de le choisir. Et donc, le problème qui se pose à moi, premièrement, c'est d'introduire un autre concept d'identité qui soit intéressant et qui introduise un problème de choix ou de décision. Et donc, c'est ce que j'appelle une identité en pratique, une identité pratique. Alors, je vais aller vers cette identité pratique par des intermédiaires, en commençant par dire que du point de vue pratique, c'est-à-dire du point de vue du comportement de quelqu'un, au fond, ce qui compte n'est pas tant l'identité de fait que je peux avoir, mais l'identité que je pense avoir, l'identité que je crois avoir, les idées que je me fais sur mon identité. Pour la plupart d'entre nous, et de façon bien naturelle, n'est-ce pas, les idées que j'ai sur mon identité sont justement celles qu'il faut avoir, c'est-à-dire que nous avons une idée correcte de notre naissance, de nos parents, etc. Mais on peut très bien concevoir que quelqu'un apprenne, à sa stupéfaction, que son identité réelle n'est pas du tout celle qu'il pensait avoir. Et ce changement a, évidemment, ce changement dans sa représentation de lui-même, dans sa conception de lui-même, a évidemment une portée pratique évidente. Donc, il y a lieu de distinguer l'identité qu'établirait un examen objectif de ce qui me concerne, et d'autre part, celle qui doit être prise en compte lorsque on s'intéresse à mon comportement ou lorsque moi-même je dois me former une idée de qui je suis, ce que je peux, étant donné ce que je suis, etc. Alors, c'est cette identité en pratique qui va nous permettre de poser un problème de choix, parce que la question se pose maintenant de savoir jusqu'à quel point je peux intervenir sur mon idée de moi-même et me forger une idée de moi-même qui soit distincte de celle que l'état civil m'attribue ou que les autres m'attribuent ou que moi-même je pensais devoir invoquer jusqu'à présent quand on me demandait de décliner mon identité. Ce qui me conduit à un deuxième point à titre d'illustration pour donner un peu de substance à cette notion d'une identité en pratique. Je vais introduire trois figures littéraires de la définition de soi, c'est-à-dire trois tentatives que nous trouvons dans la littérature pour changer littéralement son identité. Alors, première figure, c'est celle du héros de Cervantes, c'est Don Quichotte. Vous vous souvenez que au début des aventures de Don Quichotte, lorsque le héros décide de commencer une vie aventureuse, de chevalier errant, avant même de partir, il s'avise qu'il lui faut d'abord donner un nom à son cheval, qui jusque-là, donc c'est pas très clair, mais il semble que le n'avait pas spécialement un nom. En tout cas, le nom qu'il n'allait ne convenait pas. Et donc, le héros s'interroge pour donner un nom qui marque le changement de statut du cheval lorsqu'il passe de l'état de cheval banal, voire dans un état lamentable, d'après ce qu'on nous dit, en cheval de Don Quichotte. Et c'est là que Don Quichotte s'arrête sur Rocinante, qui est précisé, veut bien dire si la pierre des Roses devient maintenant la première des Roses. Donc le nom est plein de sens. Après quoi, Don Quichotte se nomme lui-même Don Quichotte de la Manche, ce qui n'était pas son nom. Et enfin, comme vous savez, il doit donner un nom à la dame qui occupe ses pensées, qui est donc Dulcinée. Alors, ce qui est frappant dans cette première scène du roman de Cervantes, c'est que dès le début, nous assistons à la mise en œuvre par le héros d'une technique de dédoublement de toute chose, que le roman va illustrer d'un bout à l'autre, avec l'idée d'une double existence de tous les objets, selon le schéma, n'est-ce pas, ce qui est en apparence un moulin est en réalité un géant, ou ce que vous voyez comme un moulin, je le vois comme un géant qu'il faut attaquer. Donc la technique du dédoublement commence par le dédoublement du héros lui-même qui doit s'avancer sous un nom nouveau, forgé par lui-même et par lequel il annonce sa prétention à vivre une aventure que les autres devront accepter. Alors, si on devait le dire dans le langage contemporain, on pourrait dire que le roman est un exercice sur le thème du constructivisme, le constructivisme social, n'est-ce pas ? Le héros de Cervantes invite les gens autour de lui, l'entourage, à entrer avec lui dans une entreprise de construction sociale de la réalité, étant entendu que ce qu'il leur demande, c'est de considérer que ce qui est construction, c'est le moulin. La réalité, c'est le géant. Mais par l'effet de l'enchantement qui intervient d'un bout à l'autre, la construction moulin tend à s'imposer de temps en temps contre la réalité du géant. La construction paysanne, vulgaire et laide s'impose à la place de Dulcinée, etc., etc. Et donc, l'aventure de Don Quichotte, c'est finalement la défaite annoncée, la défaite inévitable d'une entreprise solitaire, de faire accepter par le monde une nouvelle identité. Comme cette entreprise est racontée par Cervantes du point de vue du monde et non pas du point de vue du héros, l'effet est évidemment comique. Alors, on pourrait dire que problème de Don Quichotte, c'est qu'il a choisi une identité impossible, à savoir quelque chose que personne ne peut accepter, à savoir le chevalier errant à une époque qui n'admet plus ce personnage. Et donc, que se passerait-il si quelqu'un cherchait à se donner une identité qui soit plausible ? Et je passe à une deuxième figure de cette entreprise, qui est une scène dans les Confessions de Rousseau. Au livre 4 des Confessions, alors vous vous souvenez peut-être que Rousseau raconte comment, quittant Lyon et arrivant à Lausanne, il lui vient une idée absurde, dit-il maintenant. Je cite comment commence le récit. Il écrit « J'ai déjà noté des moments de délire inconcevable où je n'étais plus moi-même. En voici encore un des plus marqués. » Alors, le délire en question, c'est l'idée absurde qui lui prend qui lui vient de se présenter comme compositeur de musique. Et non seulement de se présenter comme compositeur de musique, mais de vouloir le prouver à l'instant même en composant une pièce de musique qui sera jouée deux semaines plus tard et qui sera évidemment une catastrophe complète. Car à cette époque, Rousseau, comme il le dit, avait un peu appris la musique à Lyon, ne savait absolument pas composer. Alors, ce qui est ici remarquable, c'est qu'il éprouve le besoin non seulement de se dire compositeur, alors qu'il ne l'est absolument pas, mais il se donne un nouveau nom qu'il emprunte, qu'il fabrique à partir du nom d'un ami qui avait exercé une vive fascination sur lui à Lyon et qui s'appelait, qui s'appelait très précisément Vinture de Villeneuve. Ça, c'est le nom de l'ami, Vinture de Villeneuve. Et Rousseau dit, donc je décidais de m'appeler Vaussor de Villeneuve. Enfin, par une espèce de mélange Rousseau et Vinture, ça donne Vaussor. Et donc il dit, j'étais complètement vinturisé. Complètement vinturisé. Alors ce qu'on peut noter là dans cette page de Rousseau, c'est que le délire par lequel il en vient à dire « je n'étais plus moi-même », comment dire, prend un double sens, puisqu'il y a le sens de l'aliénation mentale, du délire, du fait d'être complètement extravagant, mais il y a également le sens de cette nécessité qu'il ressent de nommer le nouvel être qu'il est censé créer du seul fait de le déclarer. Comme si dire « je suis compositeur » donnait à celui qui le dit l'art de la composition. Comme le fait remarquer Starobinsky dans son commentaire sur cette page, ce qui est très frappant dans l'aventure de Rousseau, c'est que il n'est pas du tout ce qu'on pourrait appeler un imposteur, comme quelqu'un qui voudrait se faire passer pour un compositeur afin d'en tirer profit, et qui donc prendrait soin de ne pas être mis au pied du mur et d'avoir à prouver qu'il est compositeur. Mais, et s'il change de nom, ce n'est pas pour se déguiser et donc tromper son monde. Il veut être compositeur et il annonce lui-même qu'il va composer, ce qui, évidemment, le mène à la défaite. Ce qui veut dire, comme l'écrit Starobinsky dans le commentaire, qu'il y a ici une identification au personnage. Et là, nous rapprochons de notre identité pratique. L'imposteur qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas est quelqu'un qui, loin de s'identifier au personnage, au contraire, prend soin de ne pas mêler le personnage qu'il joue et la réalité qu'il cache. Tandis que là, Rousseau fait le contraire, n'est-ce pas ? Il confond, en quelque sorte, dans son esprit, le personnage qu'il est en train d'inventer et sa propre réalité. Et il, par cette identification au personnage, il se croit tout d'un coup, comme par magie, dit Starobinsky, il se croit tout d'un coup devenu ce qu'il rêve d'être. Voilà donc ma deuxième figure. Alors, troisième figure littéraire, je l'emprunte à Proust. Et cette fois, le climat est complètement différent. Il s'agit d'une scène qui se passe dans le restaurant à Montparnasse, un soir où il y a du brouillard à Paris. Donc, vous vous souvenez peut-être de la scène. Et le narrateur est arrivé en avance au rendez-vous qu'il a avec son ami Robert de Saint-Loup. Et il attend l'ami, donc le patron du restaurant le met dans un mauvais endroit où il y a des courants d'air. Saint-Loup arrive et prend en main les choses, etc. Et donc il y a des pages sur la beauté de Saint-Loup, la beauté de la démarche de Saint-Loup, la noblesse française qui se résume dans les mouvements souples et harmonieux de Saint-Loup sautant par-dessus les tables, etc., etc. Et alors, le morceau se conclut par une pensée un peu triste que le narrateur prête à Robert de Saint-Loup, puisque le narrateur dit « Mais je viens de parler depuis plusieurs pages de Saint-Loup en tant que jeune... » en tant qu'exemplaire de l'aristocratie française. Et si Saint-Loup savait ce que je pense de lui à cet instant, il ne serait pas content. Et donc, le narrateur prête à Saint-Loup la pensée suivante que je cite. Donc, c'est dans le côté de Guermantes. Je cite Saint-Loup se plaignant, n'est-ce pas ? Saint-Loup dirait ceci, « Est-ce la peine que j'ai passé ma jeunesse à mépriser la naissance, à honorer seulement la justice et l'esprit, à choisir, en dehors des amis qui m'étaient imposés, des compagnons gauches et mal vêtus, s'ils avaient de l'éloquence, pour que le seul être qui apparaisse en moi, dont on garde un précieux souvenir, soit non celui que ma volonté, en s'efforçant et en méritant, a modelé à ma ressemblance, mais un être qui n'est pas mon œuvre, qui n'est même pas moi, que j'ai toujours méprisé et cherché à vaincre. Donc on a ici, quoi donc ? Eh bien, de nouveau, un effort de dédoublement, mais assez différent des deux exemples précédents, puisqu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui, tout d'un coup, décide de changer de vie, en quelque sorte, mais d'un dédoublement beaucoup plus moderne, beaucoup plus intérieur, si on peut dire, et qui fait penser à ce que les philosophes appellent autopposition, à savoir d'un être donné que nous avons au début d'un processus de transformation, c'est-à-dire Saint-Loup en tant que produit de sa race, de cet être donné et comme tel sans aucun mérite, doit surgir par un effort sur soi-même, par un acte de volonté, comme il dit, un être qui soit mon œuvre, qui soit modelé à la ressemblance de ce que ma volonté a fixé. Donc on a un exercice du soi, comme on dirait peut-être aujourd'hui, une esthétique de soi-même, un effort pour se modeler soi-même selon une idée. Et ce que regrette Saint-Loup, c'est que d'une certaine façon l'effort soit vain, puisque les autres autour ne voient pas le sujet qui s'est produit lui-même, mais continue à voir le fils le produit de sa lignée familiale. Voilà donc la troisième figure qui, comme les deux autres, joue sur une certaine impossibilité. Alors, ce qui est commun à ces trois figures, c'est que elles côtoient et cherchent à s'écarter de ce qui est certainement impossible, qui est de se changer littéralement soi-même en quelqu'un d'autre. Donc, une fois admis que cela est exclu, pas par la logique même de ce qu'on appelle une personne, il n'est pas question que je devienne mon voisin. Alors, comment penser des efforts de changement de soi-même ou de transformation de soi-même qui, d'une certaine façon, présentent une telle difficulté que, dans un sens figuré maintenant, on va les présenter comme l'accomplissement de ce qui, justement, vient d'être reconnu impossible, à savoir se changer en quelqu'un d'autre. Donc voilà notre problème. Alors, j'en viens à un troisième point que je pense on peut mettre dans la continuité des précédents, qui est que cette identité que j'ai appelée identité en pratique ou identité pratique, c'est une identité qu'on peut dire normative. Et dans le langage contemporain, l'identité apparaît en tant que normative dans des formules qu'on peut rencontrer, du type « il n'est pas question pour moi d'envisager de faire telle chose, c'est contraire à mon identité. » Ou « faire telle chose, ça fait partie de mon identité, et donc il n'est pas question de cesser de le faire. » Et je pense que dans cette formule, il y a une allusion à l'impossibilité littérale que je viens d'évoquer, à savoir, si vous me demandiez de changer telle de mes pratiques, comme cela a l'air possible en apparence, eh bien, vous ne vous rendez pas compte que c'est en réalité impossible, car c'est comme si vous me demandiez d'être quelqu'un d'autre que moi. Alors, donc, il y a cette formule, n'est-ce pas ? Ceci fait partie de mon identité. Et je voudrais faire remarquer que les philosophies qu'on peut faire de cette de cette idée que chacun a une identité qui s'impose à lui, qui lui impose des manières de faire, qui lui demande de faire certaines choses, eh bien, on peut l'entendre de plusieurs façons. Et donc, il y aurait trois façons de comprendre la normativité de l'identité pratique. Trois façons selon ce sur quoi on met l'accent. Alors, une première façon de l'entendre, ça serait de mettre l'accent sur le fait que l'identité pratique fournit à chacun le principe de sa conduite. Il y aura deux autres façons, à savoir l'identité pratique fournit un critère de la qualité de ses performances, et puis finalement l'identité pratique fournit une fin à atteindre. Alors je vais dire un mot de chacune, et je vais essayer de marquer que chacune de ces manières de comprendre la normativité qu'on peut attacher à l'identité pratique correspond à une doctrine de la conscience de soi. Bon, alors, première normativité à laquelle on peut, que l'on peut mettre en avant, c'est donc un principe de conduite. Je peux citer ici deux auteurs contemporains qui rentrent tout à fait dans cette façon de comprendre l'identité. Le premier, ce serait John McDowell, dans son article sur deux sortes de naturalisme. McDowell, dans cet article, c'est un article sur Philippe Afoud, c'est un hommage à Philippe Afoud, invente une fable qui est celle du loup rationnel, le loup rationnel. Donc il imagine que une puissance donne le logos au loup. Et il dit, mais qu'est-ce que ça va changer? Alors, si le loup a le logos, si le loup peut parler, ça veut dire que le loup est désormais doté d'une conscience de soi, puisqu'il peut parler à la première personne et donc énoncer ses états. Ce qui veut dire que, explique McDowell, que désormais, il ne va pas réagir en fonction de sa nature à toutes les sollicitations du milieu ambiant, comme n'est-ce pas, ça n'est plus sa nature qui lui dicte sa conduite, puisque, étant doté d'une conscience de soi, chaque fois qu'une impulsion naturelle lui viendra, il en sera conscient. Et étant conscient de l'impulsion qui lui est venue, de sauter sur une brebis, de chasser avec les autres loups, il va se dire maintenant, j'ai envie de faire ça, mais dois-je le faire? Et donc, la conscience de soi donne au loup devenu rationnel la puissance de ce que McDowell appelle le pas en arrière, stepping back. La conscience de soi, c'est le pouvoir de faire un pas en arrière à l'égard de sa nature, de loup. Ce qui laisse entendre que le loup acquiert un autre principe de conduite que celui que lui procurait jusque-là sa nature de loup. Alors, vous avez la même image du stepping back, du pas en arrière, dans les écrits de Christine Korsgaard, et en particulier dans son livre sur l'autoconstitution, Self-Constitution, qui précisément explique que la conscience de soi, c'est la capacité à prendre une distance à l'égard de ses inclinations et donc de développer une autonomie dans un sens, disons, néo-kantien, une autonomie de la volonté. Donc là aussi, la conscience de soi, d'une certaine façon, permet de suspendre une identité qui était naturelle et de lui substituer une identité qui est rationnelle. Korsgaard, d'ailleurs, met elle-même très explicitement en rapport cette puissance de suspension de l'impulsion, de l'inclination, avec la possibilité, dit-elle, de suspendre aussi notre tendance à croire, n'est-ce pas, de même que la conscience de soi suspend la tendance à agir, la conscience de soi suspend la tendance à croire quoi donc, ses yeux, à croire les perceptions et à porter des jugements au seul vu d'une perception. Donc ce qui est en cause, c'est un pouvoir d'époque généralisé, aussi bien pour ce qui est des assertions, donc des jugements théoriques, que pour ce qui est des actions, donc des jugements pratiques. Donc voilà une façon de voir l'identité pratique et la conscience de soi. Alors une deuxième façon de comprendre l'identité pratique comme normative, c'est de concevoir l'identité pratique comme une fonction dont on est conscient et que l'on exerce, fonction qui peut être exercée bien ou mal. Et donc la normativité ici, c'est celle qui s'attache à l'énoncé même de la fonction que l'on exerce. Donc ça, c'est une idée qu'on peut trouver chez beaucoup d'auteurs, mais voici par exemple ce qu'en fait Ernst Tugendhat dans ses conférences sur l'éthique. Il explique que il explique en somme que il réunit dans une théorie de l'identité de lignes de pensée philosophique, l'une qu'il emprunte à Heidegger et l'autre à Hegel. La ligne heideggerienne, c'est l'idée que il y a un sens spécifique du verbe être à la première personne. L'idée qui vient de Hegel, c'est celle de la reconnaissance. Et donc, les deux idées viennent ensemble. Si on dit que dans certains emplois de la copule, d'une phrase attributive à la première personne, son exemple, c'est « je suis violoniste ». Je suis violoniste. Dans certains emplois de « je suis », dans certains emplois du verbe « être » à la première personne, dans une phrase attributive, il y a plus qu'une constatation, il y a quelque chose d'autre qui joue, à savoir que je tiens à être violoniste, je me définis comme violoniste, je veux être violoniste, je, un peu comme Rousseau, là, je suis compositeur. Et ceci entraîne deux choses, dit Tugendhat. Premièrement, ça veut dire que j'y attache une signification, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et donc, dit-il, il faut distinguer les attributs auxquels j'attache du prix et ceux qui me sont indifférents. Alors, il met en concurrence « je suis violoniste » et « je suis cuisinier ». Donc, peu importe, n'est-ce pas ? Supposons que « je suis cuisinier » au sens d'une copule purement factuelle, c'est comme ça, et « je suis violoniste », c'est très important pour moi. Alors, une façon de le comprendre, c'est de dire que si je suis cuisinier, mais que ça ne m'intéresse pas, ça m'est égal d'être un mauvais cuisinier. Tandis que si je suis violoniste et que c'est très important pour moi, à ce moment-là, je veux être un bon violoniste. Et cela veut dire que je me soumets aux normes de l'art du violon qui ne dépendent pas de moi, mais dépendent de la pratique du violon, qui sont définies par la fonction elle-même. Et donc, c'est à ce titre que je vais demander aux autres de me reconnaître la qualité, non seulement de violoniste, mais de bon violoniste, pour autant que c'est là que j'ai mis mon identité. Et donc ici, vous voyez que conscience de soi ne veut plus dire cette espèce de conscience d'un état de soi-même, comme dans le cas précédent. Ça veut dire ici sentiment de ma valeur. Donc à la normativité prise au sens d'une fonction que j'exerce plus ou moins bien, correspond la conscience de soi comme sentiment de ma valeur. Troisième et dernière compréhension possible de cette normativité, eh bien, on peut le demander à Aristote. lorsqu'il explique que le médecin délibère sur la manière de rendre la santé au malade et ne délibère pas sur les fins de la médecine, c'est-à-dire sur le point de savoir s'il faut rendre la santé au malade. Donc, quelqu'un qui est médecin sait ce qu'il doit faire, il doit rendre la santé au malade. La seule question qu'il va se poser à partir de ce savoir, c'est quel est le mal dont souffre quelqu'un et par quel remède pourrais-je lui rendre la santé. Donc la délibération porte sur comment atteindre la fin qui est fixée par l'état de médecin. Et donc on peut, dans le langage contemporain, dire que être médecin, c'est l'identité pratique de quelqu'un qui exerce la médecine. Donc ici, l'identité pratique est certainement normative, mais elle est comme spécification d'un rapport au bien qui est celui du médecin. Alors, je signale que avec ce rapport au bien, nous rejoignons le sens d'identité qui est au fond celui de Charles Taylor dans ses écrits, puisque puisqu'on peut comprendre la thèse de Taylor comme étant le fait que avoir une identité, avoir une réponse à donner à la question « qui suis-je » est une condition pour agir. Ça peut paraître comme ça bizarre, n'est-ce pas ? Pourquoi devrais-je savoir qui je suis pour agir ? Mais je pense que la thèse devient compréhensible si on entend identité au sens pratique, et donc si on voit qu'il s'agit d'assigner des fins à quelqu'un du fait de son statut, du fait de sa position, du fait de ce qu'il est dans le monde. Quelqu'un qui ne saurait pas quel est son état, ne saurait pas non plus de quel côté se diriger. Bon, alors, ayant distingué ces trois sens possibles de la normativité, je reviens au problème du choix d'une identité, c'est mon cinquième point. Le quatrième, c'était Taylor, mais j'abrège pour tenir dans le. Le cinquième point, c'est donc le suivant. Peut-on parler d'une rationalité de l'identité pratique ? Alors ici, la question est la suivante. Nous savons ce que nous voulons dire quand nous parlons d'une rationalité d'une action humaine. Qu'est-ce qui fait qu'une action humaine est rationnelle ? Eh bien, c'est qu'elle est imputable à quelqu'un. Elle est imputable à quelqu'un si l'agent a su ce qu'il faisait et aurait pu faire autrement. Dire que l'agent savait ce qu'il faisait au moment où il agissait oblige évidemment à distinguer, comme le fait Aristote dans son analyse du volontaire et de l'involontaire, à distinguer les circonstances de l'action, celles qui étaient connues de l'agent et celles qui n'étaient pas connues. Donc Elisabeth Anscombe a retrouvé ce point d'Aristote dans l'éthique lorsqu'elle a développé dans son livre sur l'intention le fait que c'est seulement sous une description que l'action est imputable en tant qu'action intentionnelle. Donc quand nous parlons de la rationalité de l'action, il s'agit d'une rationalité en tant que nous pouvons attribuer une conscience de soi, une conscience d'agent à celui qui l'a faite, et c'est ce qui nous impose de relativiser cette conscience de soi à la connaissance d'une circonstance. Bon, mais alors là, nous parlons la rationalité d'une action humaine. Et donc, on peut imaginer notre médecin de tout à l'heure qui expliquerait ce qu'il est en train de faire ou qui expliquerait ce qu'il a cru devoir faire en disant « je suis médecin, donc vous voyez, je suis occupé à réunir des remèdes pour ce malade qui a besoin, etc. » Il invoquera cette attention pour expliquer ce qu'il fait. Et cette explication, c'est la mise en lumière de sa rationalité. Alors maintenant, cet exemple du médecin soulève évidemment immédiatement une question qui est « Mais si le fait d'être médecin permet de mettre en lumière la rationalité de l'action du médecin, y a-t-il une rationalité du fait d'être médecin ? C'est-à-dire, est-ce que le médecin a choisi rationnellement d'être médecin, sachant qu'il a eu le choix de deux façons. Premièrement, celui qui est médecin aurait pu faire autre chose. Il aurait pu ne pas devenir médecin. Et deuxièmement, peut-être plus grave, quelqu'un qui est médecin n'est pas seulement médecin. Et donc, d'une certaine façon, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles le médecin doit faire autre chose que l'œuvre du médecin. Pour prendre des exemples, des exemples triviaux, supposer qu'il y ait une inondation, donc le médecin... Vous vous souvenez du médecin d'Aristote qui doit frictionner le malade, il regarde le malade et le malade a besoin d'être échauffé, donc on va le frictionner. Mais il y a des circonstances où l'urgence n'est pas de frictionner le malade, c'est peut-être de le déplacer parce qu'il y a le feu, parce qu'il y a un bombardement, je ne sais pas. Donc, tout ceci pour dire que le médecin qui trouve dans le fait d'être médecin la rationalité de ce qu'il fait doit, semble-t-il, commencer par expliquer la rationalité de son état de médecin dans les circonstances présentes. C'est-à-dire que quelqu'un qui agit en médecin, quelqu'un qui se conduit comme un médecin, et quelqu'un qui choisit, au moment où il exerce sa médecine, d'être médecin. Et notre question, donc, c'est ce choix est-il rationnel ? Autrement dit, comment le médecin pourrait-il justifier le fait qu'il se choisit médecin du seul fait d'exercer sa médecine. Et donc, c'est là que nous nous heurtons à la page d'Aristote, qui nous disait que le médecin ne peut pas délibérer sur le fait d'être médecin. La délibération porte sur les moyens. Bien entendu, on pourrait dire... Être médecin, c'est aussi peut-être mis dans un autre raisonnement où quelqu'un se dirait comment réaliser telle ou telle fin. Eh bien, la bonne façon, c'est d'être médecin. Donc, à ce moment-là, être médecin apparaîtrait comme un enjeu possible de délibération. L'état de médecin, l'identité pratique de médecin entrerait dans le domaine délibératif à condition qu'on fournisse une autre fin. Mais, semble-t-il, c'est reculer pour mieux sauter. Puisque, à ce moment-là, il faudrait expliquer quelle est la justification de l'identité pratique qui a fait surgir une fin telle que le meilleur moyen pour quelqu'un d'atteindre cette fin, c'était de se faire médecin. Donc, on est placé devant ce qui semble être l'exigence d'un choix radical de l'identité ou d'une autoconstitution. Ou d'une autoconstitution. Alors, peut-être ici, je vous cite une thèse de Christine Korsgaard dans ce livre que j'ai cité, la Self-Constitution. Elle écrit dans l'avant-propos, elle résume un peu sa thèse là, dans l'avant-propos, elle écrit, je traduis ainsi, « Chaque fois que vous choisissez une action, vous vous constituez comme l'auteur de cette action et vous décidez donc de qui vous êtes. Les êtres humains ont une forme distincte d'identité, une forme pratique gouvernée par des normes. Nous sommes nous-mêmes responsables de nos identités pratiques. Alors, que faire de cette autoconstitution ? Et est-ce là le dernier mot sur la question ? Bon, eh bien, je voudrais ici élever soulever une difficulté, qui est que cette opération d'autoconstitution est embarrassante parce qu'elle peut apparaître soit comme triviale, soit comme impossible. Elle apparaît comme triviale si on prend à la lettre ce que dit Korsgaard, à savoir que vous constituez comme l'auteur de vos actions dans l'acte même de choisir ces actions. Enfin, vous constituez vous-même en auteur de votre action dans l'acte de choisir cette action. Cette proposition suggère une interprétation qui la trivialise et donc qui la rend inintéressante. Si ça veut dire que j'ai rien à faire de plus que de décider d'agir pour me constituer comme l'auteur de mon action. Donc on a simplement une autre façon de dire la même chose. Au lieu de dire je décide d'ouvrir la porte, je vais dire je décide de me constituer en auteur de l'action d'ouvrir la porte. Mais il n'y a rien de plus dans me constituer comme l'agent de l'ouverture de la porte que dans l'action d'ouvrir la porte. Et là, ça évoque un peu le dégonflage de la subjectivité par Benveniste. Là, vous vous souvenez dans le fameux texte sur la subjectivité quand il dit « Je me constitue comme égo en disant « moi ». Donc c'est trop facile. À ce moment-là, l'immense effort que nous demandaient les philosophes de nous poser en tant que moi, en tant que sujet autonome, au-dessus de la nature, etc., tout d'un coup, il suffit de dire moi pour être ce sujet. Et donc c'est trop facile. Mais alors, si ça doit être un peu difficile, la question se pose de quel est le travail que je pourrais faire, quel est l'effort que je pourrais faire, quel est l'acte que je pourrais faire en plus d'ouvrir la porte pour me constituer en sujet d'ouvrir la porte, ou en plus de dire moi pour devenir moi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ? Et il est inquiétant à ce moment-là d'apprendre qu'il faudrait m'auto-constituer. Dans l'instant même où j'ouvre la porte, comme sujet de l'ouverture de la porte. Parce que ce que ça suggère, c'est l'idée que par cet acte de m'auto-constituer simultanément à l'action même d'ouvrir la porte, il me faudrait, par cette auto-constitution, faire exister un deuxième sujet. Il y aurait le sujet banal, être vivant, mondain, qui ouvre la porte, et qui doit, dans le même temps, me donner des motifs non mondains, non naturels, des motifs rationnels d'ouvrir la porte, qui font de moi un sujet distinct de l'être matériel que je suis. Et donc la signification non triviale semble imposer une forme de dualisme. Dualisme qu'accepte Korsgaard, parce que, je cite page 19 de Self-Constitution, elle écrit « L'identité de la personne n'est pas la même que l'identité de l'animal humain sur laquelle la personne, normalement, existe par survenance. » Il y a donc deux identités, n'est-ce pas ? Si l'autoconstitution doit me donner une deuxième identité, alors nous devons accepter de soutenir un dualisme qui reste mystérieux, puisqu'il faut trouver à ce deuxième sujet une place dans la production de mon action. Alors, y a-t-il un moyen de retenir l'idée d'autodétermination, qui est au fond ce que nous voulons penser dans cette affaire, sans avoir à soutenir une idée d'autoconstitution au sens dualiste, au sens où il faudrait qu'il y ait en moi deux sujets, le sujet matériel naturel et une production de moi-même à produire sur le champ, qui, d'une certaine façon, évoque fâcheusement les figures de définition de soi littéraires par lesquelles j'ai commencé. Eh bien, je pense qu'on le peut, en empruntant, c'est mon sixième point et dernier point, en empruntant la voie d'une philosophie pratique, c'est-à-dire d'une prise au sérieux de l'idée d'un point de vue pratique. L'objection que l'on fait à Aristote quand il explique que le médecin, en tant que médecin, ne délibère pas sur la fin qui est celle de la médecine, mais sur les moyens d'exercer l'art médical, cette objection revient à prêter à Aristote l'idée qu'on ne peut pas juger de la fin. Mais je pense que cette idée est fausse. Le fait que le médecin, en tant que médecin, ne puisse délibérer que sur les moyens est inscrit dans... j'expose mon interprétation d'Aristote. L'idée que le médecin doit délibérer sur les moyens d'exercer la médecine, c'est tout simplement inscrit dans le concept même de délibération. Le concept de délibération, c'est celui d'un raisonnement pratique. Et ce qui fait qu'un raisonnement est pratique, c'est qu'il doit finir sur une action. La conclusion du syllogisme pratique est une action. Et si un syllogisme ne finit pas sur une action, c'est tout simplement que celui qui a fait le syllogisme, celui qui a raisonné, ne le faisait pas d'un point de vue pratique. Il ne le faisait pas en vue de déterminer l'action à faire maintenant. Donc, il n'y a délibération que de la part de quelqu'un qui veut faire quelque chose. Et donc, lorsque Aristote prend son exemple du médecin, ça veut dire qu'il se donne quelqu'un qui veut être médecin, certainement, et qui donc veut guérir le malade. Si on remplace le médecin par simplement un professeur de médecine qui se demande qu'est-ce qu'on ferait dans tel cas, etc., nous n'avons plus le raisonnement pratique, puisqu'il n'y a pas à faire quelque chose à déterminer par le raisonnement. Donc, ce qui importe, c'est de conserver à la question que nous posons son caractère pratique. Donc, il faut se demander, puis-je avoir un point de vue pratique sur mon identité ? Alors, avoir un point de vue pratique sur mon identité, ça voudrait dire délibérer sur mon identité. Et c'est cela qui semble nous placer devant le cercle, n'est-ce pas ? Il me faut une identité pour délibérer. Il me faut être médecin pour délibérer comment soigner le malade. Et nous voudrions pouvoir délibérer sur l'identité. Et donc, quelle est l'identité qui permettrait de délibérer sur l'identité ? Je crois que c'est à cette difficulté que tentent de répondre les théories de l'autoconstitution, à savoir, je dois me donner, par un acte non naturel, l'identité de toutes les identités, l'identité qui permet de délibérer sur l'identité. Mais à cet acte non naturel, je reproche de nous imposer en quelque sorte un acte de vouloir. Vouloir, n'est-ce pas, l'idée que je pourrais, par un choix radical, par une autoconstitution radicale, me donner une identité que je n'avais pas, précédant toutes les identités sur lesquelles je peux m'interroger, c'est dire qu'il me faut vouloir avoir une volonté. Et on tombe donc sur le paradoxe d'un vouloir-vouloir, qui est un paradoxe parce que, tout simplement, le verbe vouloir est un verbe auxiliaire et on ne peut pas vouloir-vouloir. On ne peut que vouloir faire ceci ou faire cela. Vouloir n'est pas faire, vouloir c'est la façon dont on fait. Donc vouloir-vouloir contredit la nature auxiliaire du verbe vouloir. Donc, il semble à ce moment-là qu'on est à choisir entre l'autodétermination et la délibération. Mais la voie que je propose, c'est celle qui résulte donc d'une lecture d'Aristote qui consisterait à dire que en réalité, le médecin qui se demande comment soigner le malade n'est pas devant la fin de la médecine comme devant un absolu qui, qui s'imposerait à lui sans qu'il puisse se choisir médecin ou se choisir exerçant l'art défini par la fin de cet art qui est de soigner le malade. En réalité, la seule façon pratique de se prononcer sur les fins que l'on poursuit, c'est de se demander comment les poursuivre, c'est-à-dire c'est de poser la question comment. Et là, donc, empruntant ce point au texte, au livre à l'étude de Sarah Brody sur l'éthique d'Aristote, je dirais que contrairement aux apparences, la question « dois-je ?» faire quelque chose n'est pas plus radical que la question « comment le faire ?». La question « dois-je faire quelque chose ?» peut sembler plus radicale puisqu'elle semble nous transporter d'un seul coup à l'origine de tous les raisonnements, de toutes les délibérations, et donc nous placer dans une position purement rationnelle. Mais en réalité, la question « dois-je le faire ?» n'est pratique que si on se demande en même temps comment le faire. Et c'est dans le cours d'un examen de comment le faire que se décide si il faut le faire ou non. N'est-ce pas la question « faut-il le faire vraiment ?» ne se pose de façon pratique que si, au cours de ma délibération sur les moyens d'atteindre une fin, il apparaît qu'il n'y a pas de moyen de l'atteindre qui ne soit ruineux ou inacceptable plein d'inconvénients à tel ou tel égard, de telle sorte que la rationalité de la fin n'est mise en cause pratiquement dans une délibération que si je pose la question du point de vue des moyens à utiliser. Si je revenais maintenant à mes trois figures littéraires, eh bien, on pourrait dire qu'elles illustrent précisément ce dernier point, à savoir que les tentatives de transformation de soi-même auxquelles il nous faut assister sont des transformations qui ne sont pas véritablement pratiques dans la mesure où elles ne posent pas la question du moyen. Comment atteindre la fin ? C'est justement la question que, par exemple, Rousseau ne s'est pas posée quand il se dit compositeur. Rien, logiquement, n'empêche Rousseau d'être compositeur, et d'ailleurs, il l'est devenu. Donc, il n'y a pas d'obstacle. Mais, d'un point de vue pratique, devenir compositeur exigerait qu'il se mette à apprendre la composition. C'est ainsi qu'il pourrait devenir compositeur. Et donc, ce qui disqualifie son raisonnement d'un point de vue pratique, c'est le fait d'avoir exalté la fin être compositeur sans rattacher cette idée de moi compositeur à ses possibilités présentes qui étaient d'aller se diriger vers quelqu'un qui lui apprendrait la composition. De telle sorte que, en effet, la seule façon dont Rousseau, ici et maintenant, nous sommes à Lausanne, n'est-ce pas, Rousseau, ici et maintenant, la seule façon dont Rousseau, tel qu'il est à cet instant, pourrait tout d'un coup être capable de produire une pièce de musique, la seule façon dont il pourrait le faire, ce serait d'avoir été quelqu'un d'autre. C'est-à-dire d'avoir appris la composition avant. Et comme il ne l'a pas fait, la seule façon dont ce serait concevable, c'est que, par magie, la personne de Rousseau telle qu'il est serait remplacée par une autre personne qui, ayant mené une autre vie, aurait acquis les moyens qui lui manquent de faire de la musique. Et donc ça justifie le caractère... si vous voulez, c'est ce qui justifie la manière figurée de dire « je veux devenir quelqu'un d'autre » en tant qu'elle avoue le rapport avec l'impossibilité réelle de se changer littéralement en quelqu'un d'autre. Donc, j'ai un autre développement sur Aristote, mais il est trop long, donc je crois que je m'arrête ici.
Merci.